maintenant.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur avec le Père Alphonse Abéli.
Sur Radio Maria Lubumbashi. La catéchèse sur Radio Maria avec
le Père Alphonse Abéli, missionnaire de Saint-Paul. La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur avec le Père Alphonse Abéli.
Sur Radio Maria Lubumbashi.
La catéchèse.
La catéchèse sur Radio Maria avec
le Père Alphonse Abéli, missionnaire de Saint-Paul.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes de Radio Maria, bonjour et bienvenue à cette catéchèse interactive sur votre fréquence. Chers auditeurs, auditrices, chers internautes, en ce jour, premier jour de carême, mercredi des cendres, nous sommes en train de suivre cette catéchèse avec le Père Alphonse Abéli qui nous parle du combat spirituel comme chemin de la croissance en référence à l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, Marc 1, verset 12 à 13, ou encore la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Et c'est le Père Alphonse Abéli qui nous entretient sur ce sujet. Père Alphonse, bonjour.
Bonjour, Étienne Diba. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle.
Valérie Ngoyi est du côté de la régie d'antenne. Chers auditeurs, auditrices, chers internautes, nous ouvrons cette catéchèse par la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec confiance et humilité. Toi qui es notre refuge et notre force, viens ouvrir nos cœurs et éclairer nos esprits alors que nous parlons du combat spirituel. Nous savons que la victoire nous vient de toi, notre Seigneur Jésus. Toi qui as triomphé du péché et de la mort, apprends-nous à demeurer en toi, car sans toi nous ne pourrons rien faire. Nous te confions les malades qui, d'une manière ou d'une autre, se battent pour la vie, les prisonniers. Nous te confions les personnes qui ne sait pas à quel saint se vouer. Oui, Père, c'est toi le maître. C'est toi le plus grand combattant. Viens au secours de tes enfants, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Le combat spirituel, chemin de la croissance, chers auditeurs, auditrices, Père Alphonse, vous nous parlez du combat spirituel comme chemin de la croissance. Alors, c'est quoi d'abord le combat spirituel?
Merci beaucoup, Étienne Diba, pour cette belle question. Il s'agit bien d'une lutte, intérieure entre ce que l'homme doit devenir, ce qu'il doit être, et ce qui est en train de l'empêcher à pouvoir rejoindre sa vraie vocation. Cette lutte intérieure s'appelle combat spirituel. Mais il faut dire que le thème combat spirituel dans l'enseignement de l'Église catholique désigne cette lutte intérieure, bien sûr, mais aussi une lutte gagner déjà en avance, c'est-à-dire un combat dont le chrétien est victorieux. Pourquoi? Parce que le Christ a vaincu le mal il y a 2000 ans sur la croix. Il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. À ce moment-là maintenant, le chrétien maintenant sont invités à maintenir cette fidélité dans la foi en Jésus-Christ. Et le fait de maintenir la fidélité, ça devient maintenant une lutte quotidienne. Et cette lutte-là, ne pas avoir dans le sens négatif. Ici, nous voulons parler de cette lutte dans le sens positif, positif plutôt, parce que c'est une lutte de croissance. Donc les chrétiens sont appelés à croître à travers la lutte. Et c'est comme un enfant qui doit, n'est-ce pas, marcher sur ses deux pieds. Et pour y arriver, l'enfant doit lutter. Il doit tomber plusieurs fois. Et quand il tombe, il se relève. L'enfant doit continuer toujours à lutter. Et si vous, vous pensez que votre enfant ne peut pas affronter la lutte, vous le mettez sur vos bras à tout moment, cet enfant, en conséquence, il ne va plus marcher, n'est-ce pas? Alors, ce combat spirituel doit être, n'est-ce pas, vu sous l'angle de la croissance, de la maturité chrétienne. Nous sommes appelés, depuis notre baptême, à lutter pour la vie, à lutter pour les valeurs chrétiennes, à lutter contre les vices, à lutter contre ce qui nous empêche, n'est-ce pas, à rejoindre notre vocation chrétienne authentique.
Et voilà, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, vous suivez cette catéchèse interactive sur Radio Maria Lubumbashi. Nous sommes en train de saluer également l'abbé Guy Massieta, Maxime Tantou qui nous ont justement cédé cette antenne. Et ici, c'est Radio Maria Lubumbashi. Vous pouvez, chers auditeurs, auditrices, interagir en nous laissant un message, une préoccupation, votre commentaire au 097 77 80 084 09 7 77 80 084 ou encore le 083 83 28 900 083 83 28 900. Père Alphonse, comment est-ce que le combat spirituel peut être un chemin de la croissance?
Nous avons déjà Ephésiens 6, 12 qui peut nous faire entrer dans cette nouvelle façon de comprendre le combat spirituel comme chemin de la croissance. Ephésiens 6, 12, Saint Paul parle d'un combat, non pas contre les adversaires de sang et de chair, mais contre les puissances spirituelles du mal. Vous voyez déjà cette expression. Un combat non pas contre les adversaires de sang et de chair, mais contre les puissances spirituelles du mal. Malheureusement, il y a aussi ceux-là qui prennent le combat spirituel dans un sens beaucoup plus négatif. C'est-à-dire dans le sens où ils combattent contre le sang et contre la chair. Des paroles telles que c'est ton oncle qui te combat, c'est ta tante qui est contre toi. Et d'ailleurs, ton grand-père et ta grand-mère n'ont jamais voulu de ton bonheur. À ce moment-là, vous commencez maintenant à combattre l'oncle, et à punir la tante, à bannir la grand-mère ou le grand-père. Tout simplement parce que vous vivez dans l'ignorance. Et là, c'est un faux combat. C'est un faux combat spirituel. Parce que même si c'est la personne qui est devant toi, qui est l'obstacle par rapport à ce que tu es en train d'envisager, tu ne dois pas prendre cette personne là-bas comme cible. La vraie cible, c'est le diable. Et ce diable-là n'est pas d'abord dans cette personne-là qui te combat. Il est en toi. Parce que ta manière, n'est-ce pas, de riposter au combat dont tu fais face montre justement que le diable, le malin, est en toi. Il est en train d'activer la colère en toi par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de toi. En fait, le mal, ce n'est pas ce qui vient du dehors qui peut te détruire, mais c'est ce qui vient du dedans. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons bien comprendre le thème ici sous cet angle. Combat spirituel comme chemin de croissance. Considérons tout ce qui nous arrive comme faisant partie de notre chemin des chrétiens, c'est-à-dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faudrait pas larguer ou, n'est-ce pas, penser que l'autre pourrait, n'est-ce pas, te vouloir du mal. Si l'autre te veut du mal, sache que ce mal-là s'est imposé à lui. Le problème n'est pas l'autre qui est semblable à toi, mais c'est le diable qui a pénétré en l'autre, qui peut aussi te pénétrer. Et d'ailleurs, il est en vous deux, c'est pourquoi vous sentez, n'est-ce pas, l'ardeur de réagir de manière féroce. C'est pourquoi nous sommes dit, nous, en tant que chrétiens, comme le Christ a vaincu la mort, comme le Christ est victorieux, c'est que nous vivons dans la victoire. Et celui qui vit dans la victoire n'est là que pour maintenir cette victoire-là. Il doit considérer le combat spirituel comme un moment, n'est-ce pas, de fidélité avec Dieu. Comment est-ce que je suis fidèle dans ma vie sacerdotale par rapport aux conseils évangéliques comme prêtre? Comment est-ce que je suis fidèle dans mon mariage par rapport au sacrement du mariage que j'ai reçu? Comment est-ce que je garde la fidélité en tant que baptisé? Comment est-ce que je garde la fidélité en tant que celui qui a reçu, n'est-ce pas, le sacrement de confirmation? Donc, la façon pour nous de nous maintenir dans la fidélité, c'est ce qui justifie le combat spirituel.
De retour dans ce studio, chers auditeurs, auditrices, pour la catéchèse interactive nationale, ici sur Radio Marie RDC Lubumbashi, avec le père Alphonse Abbé, démissionnaire de Saint-Paul et directeur éditorial de Radio Marie RDC Lubumbashi, qui nous entretient sur le combat spirituel comme chemin de la croissance, en référence à la lettre de Saint-Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Chers auditeurs, auditrices, Willy Kalombo et Jean-Baptiste Pétémoya maintiennent les médias sociaux, alors que Étienne Diba, je suis à la modération de cette catéchèse. Père Alphonse, vous nous avez parlé du combat spirituel. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la nature du combat spirituel?
Merci beaucoup. Comme tout combat, il faut toujours savoir la nature du combat dans lequel on se trouve. Hein. Il s'agit bien du combat spirituel. C'est que c'est un combat intérieur, un combat qu'on retrouve en nous, dans les cœurs. Et puis, ce combat, il est intérieur parce que il se déroule dans les cœurs de l'homme. La lutte entre la grâce de Dieu et les désirs désordonnés de la chair. Donc, nous avons cette lutte-là. La grâce qui est en nous, cette grâce qui nous élève, et les désirs désordonnés, bien sûr, les désirs désordonnés de la chair qui nous rabaissent vers le bas, qui peuvent être comparés aux pesanteurs. Et là, il a comme joue le rôle de la, on peut dire, de la concupiscence. Hein? Donc, c'est qui nous tire, n'est-ce pas, vers le bas, comme une force magnétique qui nous tire vers le bas. Alors, cette lutte-là maintenant, c'est une lutte intérieure. Mais il faut dire aussi la durée de ce combat. C'est très important parce que chaque combat, dans quelque part, chaque combat, il y a toujours une durée où on arrive, n'est-ce pas, à souffler la fin du combat. Et le combat spirituel, c'est un combat, d'après le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 409, un combat pour toute la vie. Donc, Étienne, c'est toute la vie. Depuis que nous avons été chrétiens, le jour où tu as été baptisé, tu as activé, n'est-ce pas, l'alarme, tu as activé la pendule de ce combat. Et c'est un combat qui t'amène jusqu'à la mort. Jusqu'à ton dernier soupir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons orienter toutes nos actions vers Dieu, puisque c'est lui qui connaît la fin de ces combats. Et c'est lui qui peut nous donner la force et même les armes pour lutter contre ces combats. Et nous avons Ephésiens 6, 12, si nous lisons davantage, on nous parle de l'armure de Dieu que nous devons, n'est-ce pas, porter. La foi, la justice, la vérité, la prière. Et pendant ce temps de carême, c'est un temps où nous sommes invités à nous exercer à porter cette armure-là du combat. C'est le moment d'intense prière. C'est le moment de pénitence, de se donner certaines pénitences pour justement lutter contre le malin, contre le mal. Il faut dire que après le carême, c'est le temps maintenant de la vie. Là, nous vivons maintenant avec l'armure. Pendant le carême, nous apprenons comment combattre, avec quelles armes. C'est pourquoi on nous présente les jeûnes, la prière, l'aumône ou le partage. Tout simplement parce que, à partir du jeûne, nous sommes en train de renforcer, n'est-ce pas, notre capacité de résister dans le moment difficile. Je vous donne un exemple. Vous êtes quelque part, par manque de quoi manger, par manque de quoi donner à vos enfants pour se vêtir, et par manque de quoi donner les médicaments pour votre famille, l'enfant est malade, et vous êtes devant une tentation de quelque chose qui ne vous appartient pas. L'idée de prendre cette chose-là va venir en avant-plan parce que vous êtes en manque. Mais si vous vous êtes exercé, n'est-ce pas, au combat, vous allez résister à cette tentation-là du mal. Vous êtes dans un couple, vous avez déjà conclu votre mariage sacramentel, et il se fait que vous êtes en voyage, loin de votre épouse ou loin de votre époux, et vous arrivez comme ça, vous êtes devant une tentation. Qu'est-ce que vous faites? Si vous vous êtes déjà préparé au combat, et si vous vous êtes déjà préparé à porter, n'est-ce pas, l'armure de Dieu, vous allez résister par la prière. Mais si vous ne vous êtes jamais exercé à la prière et au jeûne, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez succomber. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes vraiment invités à prendre au sérieux le combat spirituel, parce que en tant que créature, nous avons été créés pour être heureux. Et le bonheur, c'est en Dieu qu'on trouve ce bonheur-là. Et pour maintenir ce bonheur-là, nous ne pouvons que nous maintenir en Dieu. Et lorsque il y a autre chose, antivaleur, qui veut nous tirer vers le bas, nous devons directement, n'est-ce pas, échapper ou transcender, pourquoi pas éliminer, mais avec la force de l'Esprit-Saint.
Alors, Père Alphonse, nous sommes en train de continuer cette catéchèse. Vous avez donné la référence Éphésiens 6, chapitre 12, mais si on remonte encore un peu vers le même chapitre, mais au verset 15, 16, 17, et Saint Paul énumère les casques, les combats justement. Il parle des pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul nous voulait nous proposer en énumérant justement toutes ces armes?
Oui, parce que dans un combat, tout est permis. Dans un combat, tout est permis pourvu que vous puissiez, n'est-ce pas, battre votre adversaire. N'oubliez pas que l'adversaire ne vient pas m'éberduit. Il est muni aussi des armes pour nous attaquer. Et vous allez voir bien, quand il y a des tentations devant nous, et l'évangile de Matthieu, je pense, Matthieu 4, 1 à 11, les tentations de Jésus, nous voyons comment est-ce que le diable a utilisé quelques armes pour attaquer Jésus. À partir de la parole de Dieu, il a été dit ceci, il a été dit cela. Donc le mensonge, c'est l'arme du diable qu'il utilise. Alors nous devons utiliser quoi? La vérité. Nous allons utiliser d'autres armes. C'est comme ça que Saint Paul nous propose cela. Et quand tu parles de casque, tout ce que nous devons mettre, c'est par rapport à ce qui s'est passé comme combat à l'époque de Saint Paul. Jusqu'aujourd'hui, les gladiateurs, voyez comment est-ce qu'un gladiateur s'habille. Donc, il protège d'abord quoi? Il protège d'abord la tête, puisque la tête, c'est le cerveau moteur. Et si vous ne protégez pas la tête, sachez déjà que vous êtes foutu. Et si un chrétien qui est vraiment bien formé en ça, il doit protéger sa vie de prière. Lorsque vous sentez en vous le découragement pour prier, sachez que ce sont des armes du diable qui sont en train, n'est-ce pas, de vous décourager. Comment se fait-il qu'une personne qui a des difficultés à prier pendant quelques minutes, mais la même personne, quand il s'agit d'une fête, d'une soirée, elle est enthousiasmée pour y aller? Comment se fait-il que cette personne ne dort pas pendant la fête, mais à la messe, il dort? Bon, on peut encore dire que non, à la messe, ça peut être qu'il n'y a pas la musique. Non, pendant que la chorale chante, une chorale en train de chanter, et quel chant? Un chant d'action de grâce. Mais la personne est en train de dormir. Et c'est pourquoi il y a la cloche dans l'église. La cloche dans l'église a quelle fonction? A la fonction de nous réveiller pendant, surtout pendant la consécration. Le moment où nous devons, n'est-ce pas, prendre le visage du Christ et lui donner notre visage du péché pour qu'il puisse aspirer le mal qui est en nous et nous donner la vie qui est en lui. C'est à ce moment-là que les diables, les diablotins viennent avec des seringues, des valium pour injecter, n'est-ce pas, dans nos cerveaux. Et nous commençons à dormir, à somnoler. Et pendant ce temps-là, on essaie de faire quoi? On essaie de nous réveiller avec la cloche. Le son de cloche, c'est pas le son pour émettre seulement un bruit quelconque. Non, non. C'est un son pour chasser les démons. Les démons qui veulent pervertir les enfants de Dieu, qui veulent les distraire. Et ces démons-là continuent à distraire les enfants de Dieu au courant de la journée, et où on est entouré par beaucoup de choses qui nous sollicitent. Mais si en nous, nous avons le casque du salut, nous avons le sens de la prière, nous devons dire que non, ici, le diable veut m'attaquer, il est en train de m'attaquer, je dois prier. Et effectivement, vous pouvez prier. Et pour nous, chrétiens catholiques, nous sommes bien, nous sommes heureux avec les chapelets. Dès que vous vous retrouvez avec votre chapelet dans votre poche ou quelque part, vous sortez votre chapelet. Je pense que pendant ces temps-là, le diable va fuir.
Chers auditeurs, auditrices, chers internautes, vous êtes en train de suivre cette catéchèse interactive sur Radio Maria Lubumbashi avec le Père Alphonse Abedi qui nous parle du combat spirituel comme chemin de la croissance. Willy Kalombo, Jean-Baptiste Petemoya et assure la réalisation technique et le maintien des médias sociaux. Étienne Diba, je suis à la modération de cette catéchèse interactive. Vous pouvez donc interagir, nous parvenir votre préoccupation, votre suggestion ou votre interaction au 09 7 77 80 0 84 09 7 77 80 0 84 ou encore le 0 83 83 28 900 0 83 83 28 900. Nous allons souffler un tout petit peu et revenir vers vous un peu plus tard.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma
Vous suivez la catéchèse interactive nationale sur Radio Marie à Lubumbashi avec le père Alphonse Abedi qui nous parle du combat spirituel, chemin de la croissance. Valérie Ngoï est du côté de la régie d'antenne et je suis Étienne Adiba. Vous pouvez retrouver cette catéchèse en images sur YouTube grâce au concours et au savoir-faire de Willy Kalombo et Jean-Baptiste Pétémoya. Salutations à vous, Radio Maria. Je suis à l'écoute, bien dit, notre Babawa Imani. En combat, ce qui pousse cette personne à vous faire du mal, c'est Maman Audrey Gracia Kapinga. Elle dit, toi, t'es là pour dire merci. Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez donc nous laisser votre commentaire, votre message, votre préoccupation au 09 7 77 80 0 84. 09 7 77 80 0 84 ou encore le 0 83 83 28 900 0 83 83 28 900. Père Alphonse, on nous conseille très souvent d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous persécutent et de leur faire du bien. Vous êtes dans une famille. C'est une tante, c'est peut-être un oncle qui vous fait du mal. Il vous a cherché spirituellement, il vous a pas eu. Et il arrive que vous puissiez vous retrouver dans ce quartier où il habite, où elle habite. Comment vous allez vous comporter vis-à-vis d'elle?
Merci beaucoup. On doit d'abord corriger, dire qu'il vous a cherché spirituellement et ne vous a pas eu. L'enseignement de l'Église catholique ne voit pas les choses dans ce sens-là. L'enseignement de l'Église catholique voit le combat comme un moyen de formation, donc la vie chrétienne comme une lutte formatrice. Donc, si cette personne-là ne vous aime pas, il peut y avoir de la jalousie, qui est normale, une jalousie qui entre dans la personne et n'est pas contente de ce que tu es ou de ce que tu as. Ou il préfère être ce que tu es, ou ce que il préfère avoir ce que tu as. À ce moment-là, c'est le mal qui est en train, n'est-ce pas, d'attaquer cette personne là-bas, qui vient vers vous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport au mal? Le mal, quand il vient vers vous, vous devez vous réfugier dans le bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est le bien qui va chasser le mal. Ça ne sera jamais le mal qui peut chasser un autre mal, non. Utiliser le mal pour chasser le mal, c'est utiliser les mêmes armes qui te combattent et prendre aussi les mêmes armes pour combattre l'autre. Non, non. Nous devons prendre les armes de la charité, de l'amour, et tout en étant persévérant dans la foi pour dire que au finish, c'est la victoire est notre, la victoire est chrétienne, la victoire est du Christ.
Bonjour ma radio, merci beaucoup mon père Alphonse pour votre catéchèse. Ma question, comment éviter pour battre avec le diable? Que faire mon père Alphonse de ici une personne est priée par le démon et vient pas pourquoi, quand je prie chaque jour, mais le diable vient à me tenter. Pourquoi?
Oui.
C'est la question de Elie Bouzito.
Merci beaucoup, Elie Bouzito. Nous sommes en Romains 7, 19. Hein? J'aime bien ces passages de Saint Paul. Hein? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Ça signifie vraiment que nous sommes en plein combat. Ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu fais. Et ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et ça signifie que, en permanence, nous sommes dans le combat. Que faire? Nous ne pouvons que nous réfugier dans la foi. Pour dire, toutes les fois que nous sentons les menaces et nous succombons, demandons le courage de nous relever. Jamais nous lasser de nous relever. Il y a certaines personnes qui refusent de se confesser en disant je peux me confesser et demain je reviens dans la même chose. Non, non. Le problème n'est pas de revenir au confessionnal parce que Dieu ne compte pas le nombre de péchés ou le nombre de fois quand nous revenons vers lui. Ce qui met Dieu en difficulté, c'est lorsque nous nous décourageons. effectivement, nous ne devons pas voir trop les démons partout. Ça, c'est aussi l'enseignement de l'Église catholique. Ne pas voir les diables partout, les diables dans les personnes, on ne m'aime pas. Si on ne t'aime pas, qu'est-ce que tu fais des gens qui ne t'aiment pas? Est-ce que tu les aimes? Si toi, tu ne les aimes pas, cela veut dire que le problème est plus en toi qu'en l'autre. Et travaille beaucoup plus sur ta façon de regarder l'autre. Et en changeant ta façon de regarder l'autre, tu vas aussi, n'est-ce pas, te convertir. Que de regarder toujours ce que l'autre fait contre toi. Regarde beaucoup plus ce que toi tu fais contre lui. C'est ce qui va t'aider à lutter dans la fidélité à la foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort et le péché sur la croix et ressuscité.
Alors nous allons prendre le message audio de Monsieur Manjenga Dominique qui nous envoie cet audio que je vous prie de suivre.
Bonjour Étienne Biba, bonjour Père Alphonse Abedi, merci beaucoup pour la catéchèse de ce matin. J'ai une petite préoccupation. Nous savons que les cendres appliquées sur les fidèles le mercredi des cendres proviennent des rameaux bénis le dimanche des rameaux de l'année précédente, que le fidèle remet à la paroisse la veille du mercredi des cendres. Si un fidèle n'a pas remis son rameau, que doit-il faire avec son rameau non remis? C'est Papa Dominique de la paroisse Saint-Arcisse à Kinshasa. Merci.
Merci beaucoup. Hein? C'est une question au liturgiste. Hein? Je pense que les liturgistes peuvent bien répondre à cette question. Et je pense que s'il n'a pas remis ses rameaux, tant que ce rameau-là n'a pas été utilisé comme cendre, on n'a pas béni cela, donc il reste un rameau normal. Donc il peut aussi les classer quelque part et attendre, il doit les laisser d'ailleurs, pour attendre la fête des rameaux. Hein? Et là, il peut le changer pour mettre un autre. C'est un problème d'ordre pratique.
Alors, nous allons prendre le message de Joseph de Marie depuis Kinshasa.
Bonjour, mon frère journaliste de Radio Maria El Lubumbashi. Bonjour, mon père Alphonse. Et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. D'abord, une petite remarque. Le combat spirituel est un ministère, c'est tout un ministère, parce que j'entends parfois par-ci, par-là, quelques églises dites de réveil dire que non, moi, Dieu m'a donné le ministère du combat spirituel. Est-ce que le combat spirituel, c'est tout un ministère? Ma deuxième petite question. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est la formule très compliqué et parfois mystique de Saint Paul dans Romains 7, 19 à 20. Comment comprendre cette formule compliquée de Saint Paul dans le combat spirituel? Alors, nous savons tous, mon père, que le combat spirituel, c'est toujours entre le bien contre le mal, c'est-à-dire le bien contre le mal. Ça, c'est connu de façon générale. Mais allons un peu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'on nous relate l'histoire de Jacob qui lutte à Peniel, bien sûr, non pas avec un démon, mais plutôt avec un être mystérieux qui s'est révélé au petit matin comme Dieu lui-même. Donc, Jacob a lutté avec Dieu lui-même. Alors, comment comprendre ce genre de combat? Comment comprendre ce genre de combat au lieu de lutter contre le démon, mais on lutte contre Dieu lui-même en plus? La lutte de Jacob avec Dieu, je me demande, est un conflit, c'est un conflit physique ou un combat spirituel? Parce qu'on se rend compte que Dieu a même laissé Jacob boiteux. Il lui a donné un coup là et Jacob est devenu boiteux. Et pourquoi Dieu a-t-il initié ce combat-là au moment même où Jacob fuyait Ésaü qui voulait le tuer? Je m'arrête là d'abord, mon père.
Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour les trois questions. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est le style de Joseph Desmarie. La première question en ce qui concerne le ministère, combat spirituel peut devenir, n'est-ce pas, un ministère, le ministère du combat spirituel. Je pense que c'est un vocable qui est beaucoup plus dans les églises sœurs, et aussi on retrouve ça dans certains courants charismatiques, hein, le ministère du combat spirituel. Moi, je pense que le combat spirituel que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est un combat de croissance. C'est pas un ministère où on doit accéder à ces ministères-là du combat. Non, non. C'est la vie de tous les jours. Nous sommes donc invités tous les jours à être prudents parce que nous faisons face aux puissances du mal. Et ces puissances du mal-là, c'est toute puissance qui cherche à nous mettre en difficulté. Mais parlant de combats comme ministère, là, je pense que c'est réservé à certains qui y entrent avec la conscience d'être des ministres de ces combats-là. Mais là, je ne peux pas trop parler parce que dans l'Église catholique, on n'a pas la même compréhension du combat spirituel. Là, dans ces églises sœurs qui parlent du ministère du combat spirituel, comme conséquence, on arrive, n'est-ce pas, à chasser parfois des enfants dans la rue, soi-disant qu'ils sont sorciers. Et je me rappelle, je connais une famille dont la maman avait chassé les deux enfants, qui étaient des enfants d'une autre femme, en fait, de la première femme, et la deuxième les a chassés. Plus tard, quand j'ai posé la question, aujourd'hui, c'est cette femme-là qui a été aussi chassée par l'homme, soi-disant qu'elle est sorcière. Vous comprenez un peu. Là, ce sont des conséquences négatives de toutes ces vocables du ministère. Mais par rapport à l'autre question, la formule de Saint Paul, comment comprendre? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Romains 7, 19. Là, il s'agit bien de la liberté humaine qui est en jeu. Face à la liberté humaine qui est le don que Dieu a donné à l'homme, ce qui fait que l'homme soit homme, c'est cette liberté-là, le libre arbitre, comme on aime le dire. Maintenant, le mal s'impose, c'est la nature du mal de s'imposer. Mais le bien se propose, c'est aussi la nature du bien de se proposer. Le bien ne peut jamais s'imposer, comme le mal ne peut jamais se proposer. Alors l'homme se retrouve entre cette tension-là, entre le mal qui s'impose et le bien qui se propose. C'est pourquoi il se retrouve déjà en train de faire le mal qu'il n'a pas voulu. Et lorsqu'il se retrouve en train de faire le mal qu'il n'a pas voulu, lorsqu'il se ressaisit, il demande pardon, il rentre dans le droit chemin. Et en tout ça, l'homme est en train de grandir. Et plus tard, il va maintenant commencer à anticiper le bien. C'est-à-dire, lorsqu'il est en contact avec quelqu'un, il sait que, en étant avec son semblable, ils peuvent avoir de différents. Il commence par le pardonner en avance. Et lorsque l'homme anticipe le bien, le mal, même s'il vient s'imposer, il n'aura pas d'effet, n'est-ce pas, Étienne? Alors, on nous demande, nous chrétiens, de toujours anticiper le bien, de toujours anticiper le pardon, à telle enseigne que lorsque le malheur va venir, il trouve déjà en vous, n'est-ce pas, le casque du salut, la foi en Jésus-Christ, l'espérance, la charité.
Bonjour Radio Maria et bonjour Père Alphonse Abedi, voici mes préoccupations. Pendant cette période de carême, peut-on porter visiblement le chapelet au cou, car plusieurs prêtres critiquent cette pratique. Deuxième question, dimanche étant le jour du Seigneur, doit-on continuer le carême? C'est Papa Vicky Muyumba de la paroisse Saint-Martin Katouba.
Merci beaucoup. Hein? Oui, les prêtres critiquent cette pratique de porter le chapelet parce que le chapelet est fait pour prier avec. Alors, quand on porte le chapelet avec l'idée, entre guillemets, fétichiste, pour dire que j'ai porté, alors ça renvoie les diables. Hein. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est des trop. On peut garder son chapelet quelque part et prier avec. Moi, je suis d'avis avec cela. Mais si vous pensez le porter pour le garder, et pour ne pas l'oublier, pourquoi pas, c'est pas mal. Mais seulement que évitons le pharisaïsme, hein, puisque ce qui est beaucoup plus important, c'est pas le chapelet qu'on porte, c'est sa façon de vivre sa conversion qui est plus important. Le diable ne va pas fuir l'objet que vous portez, mais le diable va fuir la foi que vous avez, n'est-ce pas, en Dieu et en Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes devant des tentations, la manière dont vous allez vous y prendre pour demander la grâce de l'Esprit Saint, c'est ce qui va faire fuir les diables. En même temps, le chapelet est très important comme instrument de prière. Lorsque ce chapelet-là est béni, il peut toujours nous servir dans des situations difficiles. Alors, pour l'autre question, à part le chapelet, il a parlé encore de quelque chose?
Il abordait un autre aspect, c'est celui de... Je reviens sur le message. Le temps de carême, il a parlé du temps de carême, les dimanches, oui.
Ok, déjà, les dimanches à la messe, pendant le temps de carême, il n'y a pas Alléluia. Si déjà la célébration eucharistique met du côté Alléluia, l'Alléluia, le Gloria aussi, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, enlever tous les aspects, entre guillemets, folklorique, s'il faut dire, tous les aspects qui peuvent, n'est-ce pas, nous distraire. Parce que c'est le moment du combat. Ça nous demande beaucoup plus la concentration. Alors, le dimanche, c'est aussi un moment où nous devons garder toujours l'attitude du carême. C'est pas dire que, comme c'est le dimanche, je dois maintenant me comporter comme je veux. Non, non. D'ailleurs, le dimanche, ça doit être encore intense parce que nous devons vivre vraiment notre carême.
Père, est-ce que nous pouvons dire que le port du chapelet régulier, le port régulier du chapelet, peut être compris comme une dévotion populaire à la Vierge Marie?
Bon, je pense pas comme dévotion populaire, mais il y a quelques personnes qui pensent que porter un chapelet peut les protéger contre le malin ou le mal. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ça, de ce port du chapelet. Beaucoup plus imiter la Vierge Marie dans ses vertus. Les vertus de la Vierge Marie, cela peut empêcher le mal à nous atteindre. Et le port du chapelet, comme moyen de conserver le chapelet pour se déplacer avec ça, ce n'est pas mal. Mettre le chapelet dans le véhicule, ce n'est pas mal. Mais imiter la Vierge Marie dans la dévotion, je pense que c'est beaucoup plus important.
Bonjour mon père, et merci pour la catéchèse. Et j'ai une petite préoccupation. Au fait, vous avez dit tantôt là qu'il faut combattre le mal par le bien. Comme le frère Étienne l'a dit, par exemple, quelqu'un qui te cherche spirituellement, ainsi, bon, tout ce qu'il a dit là. Et s'il se fait que on a essayé de combattre le mal par le bien, c'est-à-dire physiquement, comme vous l'avez dit, c'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte un combat déjà voué à l'échec, si on peut bien comprendre par là. Mais physiquement, si par exemple on s'est dit que on doit prendre soin de cette personne, on doit rendre le bien pour le mal, donc contre le mal ou pour le mal, ça dépend. Je sais pas comment le terme est bien utilisé là, c'est-à-dire combattre le bien par le mal, oui. S'il arrivait que, même physiquement, vous essayez de prendre soin de cette personne, il arrive parfois, on entend dire que vous pouvez prendre soin de cette, entre guillemets, tante ou de cet oncle-là qui cherche à vous nuire d'une manière spirituelle, mais il arrive que vous essayez de prendre bien soin de cette personne-là physiquement. Vous essayez de l'aider d'une manière ou d'une autre, mais il s'est fait que par vos dons, par exemple, vous lui donnez quelque chose, l'argent, quoi que ce soit. Mais il y a des choses qui se disent, par exemple, quand par le fait qu'il a touché à votre argent, voilà que qu'il bloque, par exemple, votre finance. Comment faire par rapport à ça? Merci.
Et voilà, c'était le message de Magali Ange.
Merci beaucoup, hein, Magali Ange, pour ta question. Je trouve dans ta question certains vocabulaires de nos églises sœurs. Donc, il a pris ton argent. Après, comme il a touché ce que tu lui as donné, il t'empêche maintenant d'en avoir. Non, Magali, nous, chrétiens catholiques, nous ne devons pas lier... donner la force au diable. Ça, c'est donner la force au diable. Considérer comme si le diable est tellement puissant que Dieu. Et si la personne à qui vous avez donné quelque chose, parce que pendant les temps de carême, on nous invite à partager, hein, à partager. Le partage signifie donner à l'autre ce que Dieu vous a donné tous. Une façon, n'est-ce pas, de partager. Et cela doit être en secret, dans toute discrétion. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, jouer le tam-tam au tam-tam pour ou jouer à la trompette pour appeler les gens que vous avez fait un geste de charité. Non, ça doit être en toute discrétion. Et si, par malheur, vous n'arrivez plus à avoir encore l'argent, ne liez pas ça au fait que vous avez donné à la personne là. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Quand vous avez, dites merci à Dieu. Quand vous n'en avez pas, dites toujours merci à Dieu. Combattre le mal par le bien. La nature du chrétien, c'est le bien. Le chrétien est là pour le bien. C'est un homme de bien. C'est même un autre nom du chrétien. On peut même mettre le nom chrétien à côté. On peut même vous appeler seulement homme de bien, femme de bien. Parce que le chrétien vit du Christ. Le Christ est venu sur la terre et il est passé dans ce monde en faisant...
En faisant le bien.
En faisant le bien. Et il passe en faisant le bien. J'aime cette expression et je l'avais eu chez le père Roger quand j'étais en formation. Il avait dit très bien que quand on veut faire le bien comme le Christ, on doit savoir passer pour que le bien demeure. Et c'est lui qui veut rester à la place du bien, il reste et le bien ne va pas demeurer. Et si, par exemple, quelqu'un est mal intentionné, cette personne là-bas ne va pas vous trouver. Il va trouver que le bien. Et si vous ne continuez à faire le bien, rien ne peut vous arriver. Vous devez comprendre que quand quelque chose vous arrive, du mal, c'est du passé. Le mal n'est pas au présent pour nous chrétiens. Le mal est toujours à considérer comme du passé, comme quelque chose qui vient confirmer le bien, la victoire qui est déjà devant vous. Le mal ne sera jamais devant le chrétien. Le mal est toujours du passé. Il porte le masque pour nous effrayer. C'est en quelque sorte ce qui peut arriver à certains insectes. Prenons par exemple l'abeille. L'abeille pique pour se défendre. Vous voyez, la moustique pique car elle a besoin de sang pour se développer. Nous allons encore voir la punaise de lit. Elle pique pour se nourrir du sang humain. Là, c'est la nature de ces insectes-là. Et la nature du chrétien, c'est de faire du bien. Alors, si vous faites du bien à quelqu'un qui vous font du mal, sachez que le mal n'aura pas le dernier mot. Et surtout que le mal est comparé au livret. Le livret, d'après les biblistes, disent que le livret n'a que 30 centimètres. Donc, le blé va au-delà de 30 centimètres. Donc, laissez le mal vous terroriser. Mais ça va arriver au moment où il va s'arrêter parce que il n'aura pas une longue durée. Et le bien va transcender. Le problème des chrétiens, c'est que quand le mal les attaque, et aussi cherche à attaquer par le mal, à ce moment-là, le mal va vous vaincre. D'autant plus que vous ne serez pas trop résistant dans le mal. Étant chrétien, vous devez vous réfugier dans le Seigneur.
Alors nous prenons cet autre message de Kelly Grace. Kelly Grace depuis Kinshasa. Bonjour à vous, Père, et merci pour cette catéchèse. On dit que Mwenyeku Kwanza na Mwenyeku Wazika bote biko na lazima ya maungamo. N'est-ce pas punir doublement celui qui a subi?
Ah, merci beaucoup. Donc, celui qui fait du mal et celui qui subit le mal, tous les deux ont besoin de la confession. est-ce que ce n'est pas une manière de punir doublement celui qui a subi, si j'ai compris, n'est-ce pas? Ah, ok. Au fait, le problème ici, c'est lequel? Lorsque on te fait du mal, toi qui es chrétien, comment tu as réagi à ce mal-là? Tu t'es mis en colère. Mais le fait seulement d'être en colère, ça signifie que vous avez péché. Vous allez demander pardon parce que vous étiez en colère face au mal qu'on vous a fait. Et lorsque vous allez rencontrer la personne qui vous a fait du mal, vous devrez le pardonner. Et pardonner dans ce sens-là, n'est pas dans le sens de quelqu'un qui a commis le forfait, mais de quelqu'un qui n'a pas su supporter le forfait de l'autre. Le fait de ne pas supporter l'autre, c'est déjà un péché, parce que les chrétiens sont invités à supporter. Le fort supporte le faible. Et quand on n'arrive pas à supporter le faible, on pêche. Alors, on va vers celui par qui le mal est passé pour lui demander, n'est-ce pas, pardon du fait qu'on n'a pas réussi à supporter le coup en tant qu'humain. C'est tout à fait normal, cette façon de voir les choses. Et celui qui est aussi protagoniste, celui qui a fait du mal, doit aussi se confesser parce que le mal est passé par lui. Et vous allez voir, Étienne, ce que j'aime beaucoup dans une situation comme ça, c'est que le deux est celui qui fait le mal et celui qui subit le mal, chacun va dire qu'il avait raison. Celui qui attaque va dire que non, j'attaque parce que il m'a mal regardé. Et celui qui a attaqué, il va dire qu'il m'a attaqué, moi je n'ai rien fait. Tous se disent être innocents. Donc, nous chrétiens, nous devons faire le premier pas. Que vous soyez celui qui provoque le mal ou subit le mal, nous devons faire le premier pas parce que dans tous les cas, nous avons péché.
Est-ce que nous pouvons comparer ça à l'évangile du dimanche dernier, lorsque tu vas présenter ton offrande et que tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va arranger avec lui et puis reviens présenter ton offrande?
Oui, ça peut être aussi dans ce sens-là, parce que justement, vous êtes à deux. Vous devrez présenter l'offrande avec la communauté. Maintenant, vous arrivez chez votre père, votre papa, il va vous poser la question, où est l'autre? Hein? Où est Abel? Vous allez dire quoi? Donc, allez chercher l'autre. Ça signifie seulement penser à celui qui a quelque chose contre vous pendant que vous êtes en train d'offrir au Seigneur. C'est une façon d'être ouvert à la réconciliation et au pardon.
Bonjour Radio Maria, c'est Augustin et Rabot, depuis Goma, paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. Je suis attiré et séduit par l'enseignement d'aujourd'hui. Ma question est celle-ci. Parfois, le sommeil ne peut pas nous attaquer, mais il y a une chose qui nous échappe, le contrôle, l'habillement de nos sœurs dans l'église. Imagine, vous êtes concentré pendant la consécration, mais une sœur habillée en sexy, comme elle les appelle, puisse s'asseoir devant vous. Dans ce cas, faut exiger une tenue dans l'église, car la Bible dit « Dieu voit que le cœur ». Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, pourquoi plus on prie, plus on évite les péchés, et plus cela exagère, même jusqu'à se concentrer en prière?
Merci beaucoup pour cette belle question ou cette série de questions. Premièrement, en ce qui concerne les tentations dues au regard, les tentations du regard, la personne s'est mal habillée. Si vous constatez cela, commencez déjà à prier pour cette personne là-bas. Si vous avez en vous le regard de Dieu, si vous avez déjà emprunter, n'est-ce pas, le regard de Dieu, vous allez regarder cette personne là-bas avec beaucoup de pitié, beaucoup de miséricorde. Puisque c'est l'ignorance qui signifie seulement la présence du malin dans cette personne là-bas. Il y a aussi des personnes innocentes, il n'a pas été éduqué convenablement. À ce moment-là, il pense qu'il se sent à l'aise dans cet habit-là. Et c'est le travail de ceux qui sont à la porte de l'église, hein, de pouvoir de lui dire fraternellement, il ne faudrait pas menacer la personne, parce que l'Église est là pour tout le monde. Je ne suis pas pour ceux qui chassent des gens parce qu'il est venu en pantalon, mais si on trouve quelque chose qu'on peut lui donner pour qu'il entre à l'Église, ce n'est pas mal. Mais aussi, le lui dire, et dire bien avant la tenue qu'il faudrait mettre, c'est aussi bon. Je vois dans certaines invitations, mettre
dress code,
quelques notes à bene, pour dire que vous allez porter ceci ou cela par rapport à cette manifestation. Donc nous sommes invités à porter bien devant le Seigneur. C'est très important. Mais en même temps, plus vous priez, plus aussi vous sentez être menacé et le mal arrive encore. C'est ce qui signifie justement le fait d'être dans les combats. Alors, vous devez aussi continuer, n'est-ce pas, à prier davantage. Parce que dans le combat spirituel, on ne doit pas se dire arriver. Non, non. Le diable ne sommeille pas, ne dort pas. Le malin est toujours là, il veille. Et nous aussi, nous devons rester toujours en éveil et être toujours prudents et ne pas négliger quoi que ce soit.
Nous allons prendre donc ce dernier message, c'est le message de Augusta.
Peter. Mon père, j'ai une question. Comme on en parle beaucoup aujourd'hui sur le chapelet, je vais poser une question spécifiquement sur le chapelet rouge qu'on appelle communément chapelet de Michael. Pourquoi y a-t-il beaucoup de contradictions entre les prêtres, surtout chez nous ici en Mbujumaï, dans les diocèses d'Mbujumaï? Je vois qu'il y a beaucoup de contradictions entre prêtres sur les chapelets rouges. Il y a ceux qui condamnent et qui refusent aux chrétiens d'utiliser ces chapelets. Et il y a certains qui soutiennent ça et qui disent « c'est vrai, c'est bien d'utiliser ces chapelets-là ». Entre autres, la congrégation, surtout des frères franciscains. Et surtout, ce sont les abbés qui sont contre cette pratique des chapelets rouges. Mon père, nous sommes une seule église. L'Église catholique est universelle. Pourquoi entre vous, les prêtres, il y a toujours des contradictions sur les chapelets et sur les objets sacrés de l'Église, sur des manières de prier? Il y a toujours, je vois, j'entends, nous entendons tous toujours des contradictions. Pourquoi ça? Je me demande, les chapelets rouges, ils ne sont-ils pas fabriqués à Rome? Ils ne sont pas reconnus par l'Église universelle, notamment par les Saint-Sièges? Et s'ils sont connus, et s'ils sont autorisés, pourquoi les autres refusent? Hein? Qu'y a-t-il de mal dans ce chapelet rouge? Merci beaucoup, c'est Ogi, depuis Mbujumaï, dans les diocèses de Mbujumaï.
Voilà, Père Alphonse, peut-être que vous avez une minute pour répondre
Merci
à cette
beaucoup.
Question et désannoncer cette émission.
Merci beaucoup. Hein, je pense que ça fait partie des dévotions populaires. Hein, dévotions populaires. Mais la couleur du chapelet, à part le chapelet missionnaire, hein, Etienne, hein, le chapelet missionnaire est beaucoup plus universel. Parce que là, nous voyons des différentes couleurs, quatre couleurs qui symbolisent les cinq couleurs cinq qui couleurs, symbolisent oui. les cinq continents. Tout On appelle fait. Ça aussi chapelet missionnaire. Mais le chapelet rouge, ça peut être une dévotion d'une congrégation, peut-être. Et puis ça, une histoire par rapport à ça. Et peut-être il y a des prières appropriées et les abbés qui ne sont pas de cette spiritualité-là, ne connaissent pas ça, et ils peuvent toujours aussi, n'est-ce pas, s'opposer. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la prière que nous faisons. Si c'est la prière que nous faisons à Saint-Michel, on peut la faire aussi avec un chapelet d'une autre couleur. Ce n'est pas un problème. Et on ne doit pas être lié beaucoup plus aux couleurs pour déterminer une sorte de chapelet, bien que les couleurs peuvent intervenir aussi d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne les chapelets rouges, d'ailleurs c'est ma première fois de l'apprendre, je dois le dire, et ce n'est pas quelque chose qui est autorisé au niveau de l'Église catholique comme un chapelet que nous devons en principe prier avec, mais c'est un de dévotion particulière. Peut-être que la congrégation qui utilise ça a une histoire derrière ce chapelet-là.
C'est par là que nous mettons un point justement à cette catéchèse interactive, chers auditeurs, auditrices. Nous disons merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés, Willy Kalombo, Jean-Baptiste Pétémoya, Valérie Ngoï, Père Alphonse Abedi. Nous vous disons merci pour cette catéchèse.
C'est nous aussi qui vous remercions pour votre travail que vous faites. Nous remercions aussi les auditeurs qui nous ont suivis, même ceux qui nous ont suivis en ligne à travers la web Télémédiaspol. Soyez sans remercier.
Merci Étienne Diba, j'étais à la modération de cette catéchèse que nous sommes en train de clôturer par la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Père miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Le combat est à toi, la victoire est à nous. Nous te confions, Seigneur, toutes les situations que nous traversons dans notre pays et dans notre monde. Oui, Père, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité comme armes susceptibles de combattre tout ce qui peut nous empêcher à te rencontrer. Oui, Père, nous voulons entrer dans ce combat de la foi pendant ce temps de carême. Accompagne-nous par la présence de ton Esprit Saint, toi qui viens régner pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.